qu'au fond, nous ne sommes pas tous conspirationnistes.
Je pense qu'on est tous conspirationnistes parce qu'on n'a pas accès à toute l'information en même temps et que du coup, on ne peut pas savoir qui c'est qui dit la vérité, qui c'est qui ment.
Je pense qu'on est maintenant éveillés. C'est-à-dire que ce qu'il nous a montré ce matin, c'est qu'effectivement, ça confirme un peu ce que je pensais, c'est-à-dire que ne pas prendre tout comme du bon pain, que ce qu'on fait, c'est on fait attention à ce qu'on publie. Et conspirationniste, on est pris au jeu, mais justement, ça nous a permis de prendre des pincettes avant de regarder ou de conclure à une information, est-elle vraie, n'est-elle pas vraie. Moi, j'étais touchée par ce qu'il parlait quand il parlait de Tchernobyl. Nuage de Tchernobyl, moi, je m'en souviens, c'était comme hier. Les premiers pas de l'homme sur la Lune, j'ai eu un moment de doute aussi, parce que c'est vrai que c'était quand j'avais 10-12 ans, donc... Ouais, c'est vrai, pourquoi pas, on les entend. Maintenant, je pense qu'il faut, justement, ça, moi, je trouve que ça remine l'église au milieu du village, c'est-à-dire on n'est pas forcément, on n'est pas complotiste, on est, faut rester vigilant, et c'est là-dessus où ça m'a vraiment beaucoup apporté au niveau de l'information qu'il nous a transmise ce matin. C'était génial.
On pense tous à des choses et d'autres pensent à d'autres choses. Enfin,
on influence beaucoup les autres. On demande beaucoup l'avis des autres pour argumenter et donner le nôtre, et souvent l'imposer aux autres.
Bonjour à toutes et à tous. Il est 9h et vous êtes bien en direct sur Radio Plus afin d'écouter l'émission La Ligue et vous, un rendez-vous mensuel qui vous est proposé par la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais et animé par Manon, Madison et Thomas du Pôle Média.
Au programme de 7h, un sujet brûlant et qui passionne les foules, les théories du complot. Mise à l'honneur lors de la journée citoyenneté numérique ayant eu lieu le 6 février dernier à Neuilly-les-Mines. Nous avons pu écouter durant près d'une heure et demie l'intervention de Rudi Reichstadt, fondateur et auteur principal du site Conspiracy Watch, à propos des conspirationnistes. Qu'est-ce que la théorie du complot? Comment les reconnaître et en échapper? Nous l'expliquerons dans quelques instants avant de revenir sur les ateliers de cette journée ainsi que sur la table ronde animée par Maxime Sareva de la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais, pendant laquelle se sont exprimés Flora Belloin du Labo 148, Sherazade Shekaïchela de la Friche ainsi que Jean-Christophe Sarraud d'ATT Carmonde.
En seconde partie d'émission, Xavier Artard, chargé de mission citoyenneté numérique, nous a accordé quelques minutes de son temps afin de répondre à quelques questions au sujet des théories du complot, de la désinformation et des médias. Nous finirons enfin sur l'habituel flash info. Mais avant tout cela, avant d'entamer le sujet, retrouvez Zombie des Cranberries. We'll be right back. Le 6 février 2020 à Neuilly-les-Mines s'est déroulée la journée citoyenne et numérique, un moment important sur la thématique des théories du complot, suivi d'une sensibilisation sur l'utilisation des médias et des réseaux. Nous avons eu l'honneur d'accueillir Rudi Reichstadt, rédacteur en chef et fondateur du site internet Conspiracy Watch, service de presse édité par l'Observatoire du conspirationnisme et des théories du complot. Mais une question se pose, qu'est-ce que sont les théories du complot ? Donc une théorie du complot propose une vision tout autre d'un fait dans lequel, en réalité, selon les conspirationnistes, un groupe et ou une organisation agirait dans l'ombre dans le but de nuire ou de mentir. Attention cependant à ne pas confondre cette notion avec la désinformation et la rumeur, car il y a une distinction à ne pas oublier.
Une rumeur est une information, vraie ou fausse, provenant d'une source non officielle mais crédible. Elle n'est donc fondée sur aucune preuve et malgré les démentis ou vérifications, il est difficile de faire cesser cette dernière, faute à sa capacité à devenir très rapidement virale par le biais des réseaux sociaux. Quant à la désinformation, il s'agit de l'acte délibéré de propager des fausses informations afin d'influencer une opinion ou d'affaiblir une personne ou une organisation. C'est un phénomène public qui nécessite le relais d'un ou des médias afin de toucher son public. Elle a souvent un caractère politique ou économique et entre souvent dans le cadre de conflits. Lorsque l'on parle de caractère politique ou économique, lorsqu'on parle de désinformation, il n'est pas rare que l'on parle de fake news ou d'infox. Afin de contrer contre cela, il faut vérifier ses sources. Théorie du complot. Rumeurs, désinformations, on les trouve sur de nombreux médias, et notamment sur Internet, c'est-à-dire YouTube ou les réseaux sociaux, sur lesquels règne une relative impunité permettant la plus grande propagation et création. Et au-delà de ça, il y a le complosphère, un regroupement de groupes ou de médias propageant des théories du complot, rumeurs ou alimentant volontaire ou non la désinformation. C'est pendant près d'une heure trente que Rudi Reichstadt nous a parlé de cela. Nous vous proposons d'en écouter quelques extraits.
Une théorie du complot, c'est trois critères et trois critères cumulatifs. C'est toujours, implicitement ou explicitement, un discours d'accusation. Lorsque vous soutenez une théorie du complot, lorsque vous insinuez une théorie du complot, ça peut être sur un mode interrogatif, en posant toute une série de questions, ça peut être sous couvert, vous savez, du droit au doute. Ah, je ne fais que poser des questions, je ne sais pas, je laisse ouvert, etc. En réalité, vous incriminez un petit groupe d'individus et vous l'accusez de comploter. Et comploter, ce n'est pas rien, c'est grave, parce qu'un complot, c'est toujours un acte répréhensible. Cette accusation, elle ne s'appuie pas sur les preuves. Elle est infalsifiable, alors au sens de Karl Popper, qui expliquait que le critère de la falsifiabilité ou de la réfutabilité, c'est ce qui distingue une théorie scientifique d'une théorie qui ne l'est pas. La théorie du complot, elle n'est pas problématique parce qu'elle parle de complot, elle est problématique parce que c'est une mauvaise théorie. Le complot dénoncé par un conspirationniste est toujours un complot permanent, actuel. C'est un complot en cours, présent. C'est pas simplement dire qu'il y a eu un complot pour faire un putsch le 2 décembre 1851, vous voyez, ou pour faire un coup d'État, ou pour assassiner telle personne, etc. Il s'agit de dire que le complot continue. En 2016, le gouvernement, le service d'information du gouvernement, qui est un service qui dépend de Matignon, va mettre en ligne un site qui s'appelle ontomanipule.fr pour essayer d'expliquer de manière pédagogique comment fonctionne la théorie du complot, comment essayer d'éviter de tomber là-dedans. Donc, plusieurs initiatives salutaires, mais insuffisantes. Alors, il y a plein de choses, des formations, des kits vidéo, des ateliers d'autodéfense intellectuelle, des journées d'études qui sont consacrées à cela. Il y a une série sur Canal+ qui s'appelle Le Complot, qui est très drôle, qui est très intéressante. Mais évidemment, tout cela n'est pas suffisant. Précisément, ces théories du complot, elles viennent saper la confiance que le public, les citoyens, peuvent avoir dans les grandes paroles d'autorité, les institutions, les autorités sanitaires, le pouvoir, l'État en général, la science, la communauté scientifique, on le voit à travers notamment le climato-scepticisme, ou cette autre grande parole d'autorité qui est la presse. On rejette tout ce qui est écrit dans les médias professionnels, etc. Et cultivant cette confiance, c'est bien ces théories du complot peuvent nous conduire à faire de mauvais choix, avec des choix avec des conséquences tout à fait graves. Donc, Ces théories du complot, ce ne sont pas juste des petites histoires rigolotes. C'est ça qu'il faut bien avoir à l'esprit. Ça a réellement des conséquences.
Alors, si tu te souviens bien, Manon, de la petite capsule diffusée en début d'émission, j'aimerais avoir ton avis sur la question. Ne sommes-nous pas tous, au fond, un peu conspirationnistes ?
Eh bien, Madison, je pense qu'on l'est tous un peu, parce que pour moi, je pense que tout ce qui est au niveau de la conspiration, ça vient déjà de l'imagination, à pouvoir inventer un fait qui n'est pas forcément réel. Donc, je pense qu'on a tous une part d'imagination, donc il est très facile de faire de la conspiration.
Alors, attention tout de même, hein, le but n'est pas de tomber dans la paranoïa, il s'agit avant tout de se faire son propre avis sur tout. Lorsqu'une information parvient jusqu'à vous, il est important de remonter jusqu'à la source première de cette dernière et de prêter attention au site où vous pêchez l'information, à son allure. La désinformation peut nourrir une théorie du complot et il faut donc faire la distinction avec le trucage de la réalité pouvant être très facile. Méfiez-vous des messages chocs et vérifiez la date de l'information donnée. Retenez bien le qui, où et quand. Tout de suite, Macklemore et Ryan Lewis.
I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking men. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads would be like, ah, he got the Velcro.
I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Ow. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome.
What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by a business. That shirt's hella dope. And having the same one as six other people in this club is a hella don't. Peep gang, come take a look through my telescope. Trying to get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't.
Goodwill. Popping tags. Yeah.
I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome.
De quelle manière peut-on mêler éducation populaire, médias et réseaux ? La journée du 6 février s'est achevée sur une table ronde animée par Maxime Sareva de la Ligue de l'Enseignement. Pendant une quarantaine de minutes sont intervenus trois invités meneurs d'atelier durant l'après-midi, à savoir Flora Bellouin et Sheherazade Sheikhchela, respectivement membres du Labo 148 et de la Friche, ainsi que Jean-Christophe Sarraud, membre du mouvement ATD Carmonde. Ces derniers répondent à cette question, pas si simple que cela.
Et donc nous, dans ce qu'on fait au Labo 148, c'est, le Labo 148, c'est un projet qu'on a mis en œuvre maintenant il y a 3 ans à Roubaix à la Condition Publique, qui est un lieu, donc la Condition Publique est un lieu culturel, mais c'est un projet qui est aussi en lien avec l'École de Journalisme de Lille et une maison de production parisienne qui travaille sur des petits formats vidéo qui s'appellent les haut-parleurs, où c'est des jeunes qui prennent la parole sur des sujets qui les concernent, face caméra, et qui tournent des petites vidéos de là où ils sont. Et donc ce projet-là, ça rassemble une quarantaine de jeunes qui sont issus de toute la métropole lilloise, pour moitié issus des quartiers populaires de la métropole, et l'autre moitié qui sont étudiants à l'université, qui préparent les concours d'entrée en école de journalisme. Et donc l'idée, c'est de les faire travailler ensemble. Le Labo 148, c'est le nom du projet, mais c'est aussi un lieu fixe, un lieu qu'on a investi. Donc à la Condition Publique, un espace vraiment pour les jeunes qui le fréquentent, où il y a des ressources pratiques, matérielles, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir emprunter du matériel, faire du montage, et tenir leur conférence de rédaction tous les mercredis soirs. Il y a aussi des permanences pour accompagner ces projets-là. Nous, les deux coordinateurs, avec Julien Pitinum qui est photographe, moi je suis journaliste, illustratrice, et on est là pour accueillir les jeunes, pour aussi pouvoir et les aider à monter leur projet et accompagner des temps de production sur des sujets donnés. Donc tous les 6 mois, on change de thème et c'est un prétexte pour nous d'explorer ce thème, de faire venir des différents intervenants qui vont un peu aussi apporter de la réflexion. On ne part pas directement en production, on va d'abord explorer un petit peu ce thème-là, comment ça résonne pour eux, comment ils ont envie de l'aborder, comment ils peuvent parler aussi de choses qui les concernent à travers ça. Donc on a parlé de l'habitat, on a parlé du travail, on a parlé du corps, du rapport au corps, de l'Europe. La dernière série, elle est sur les révoltes. Et donc à chaque fois, c'est à travers peut-être une quinzaine de productions, essayer de voir comment ils peuvent l'aborder sur différents sujets qui sont ensuite diffusés soit sur le site internet du labo, soit sur des médias plus traditionnels, puisque l'idée c'est aussi que leur voix soit entendue et qu'elle prenne une vraie place dans le débat public. Et donc toute cette production est aussi accompagnée de temps d'échange avec le public. Donc il y a des projections, il y a des débats, il y a une programmation culturelle, des ateliers vraiment ouverts à tous. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de croiser à la fois la pratique et en filigrane de questionner comment on va produire l'information, qui c'est qu'on va interviewer, pourquoi, qu'est-ce qu'on a envie de raconter à travers ce qu'on produit, et puis aussi de faire évoluer le regard des journalistes en devenir sur les quartiers populaires, puisqu'ils sont amenés à travailler avec des jeunes qui n'auraient peut-être pas côtoyé spontanément. Ils sont amenés à faire des reportages en milieu où ils n'auraient peut-être pas été spontanément. Donc ça fait bouger les regards des deux côtés et il y a vraiment cette idée de mixité dans le projet qui est vraiment fondamentale.
Sur la partie éducation populaire aux médias, on part de quelque chose qui est aussi très, très à la mode dans les projets, c'est la pédagogie par le faire. C'est-à-dire que nos projets en fait sont toujours construits avec les gens avec lesquels on les mène, donc on les met en situation de pratiquer. Et puis sur le côté éducation populaire, en fait on n'a rien inventé, au contraire on a tout piqué à droite à gauche. Ce sont des choses qui existent déjà, que ce soit des outils d'animation sur lesquels on va réfléchir à la place que chacun occupe, à la légitimité que chacun peut avoir pour aborder un certain nombre de sujets. Donc on essaie de travailler de manière la plus horizontale possible dans le projet et sur plusieurs temps. Par exemple, on est beaucoup sur d'abord un temps de déconstruction de ce qu'est l'information, la fabrication de l'information, où là on va passer par un certain nombre d'outils, de jeux sur lesquels on va réfléchir à comment l'information se fabrique aujourd'hui sur un certain nombre de sujets. Il y a un temps sur lequel on va plutôt être dans la construction de l'information, où là, on va toujours pareil expérimenter comment on construit des sujets, comment on construit des reportages, de manière à la fois technique, son montage, le fait d'expérimenter les contraintes aussi de certains formats, etc. Et puis, un troisième temps, on va plutôt être sur la reconstruction d'une information, on va dire, qui nous ressemble, ou en tout cas dans laquelle on se sent, avec laquelle on se sent à l'aise. Et là, vient l'idée de faire justement émerger des témoignages nouveaux, ou en tout cas qui viennent compléter ce qui peut exister en termes d'informations qui circulent sur un certain nombre de sujets, de lieux, de personnes. Donc voilà, on travaille un peu comme ça en trois temps, du coup, avec les publics, et puis toujours dans l'idée de construire ensemble et pas d'arriver avec un projet déjà pensé, qu'on vous met entre les mains, vous allez faire comme ça, il y aura tant de séances, donc on essaie de, au plus possible, co-construire avec tout le monde les projets qu'on a envie de mener.
Il faudrait que dans tous les groupes de jeunes, il y ait des radios locales, enfin, ils fassent de la radio, ou ils fassent des podcasts, ou ils fassent des vidéos avec leur smartphone. Ça, c'est super. C'est ce que la possibilité que nous donne Internet depuis 25 ans, c'est d'être notre propre média, etc. Et on peut atteindre une visibilité assez importante. Mais à un moment, pour passer à la télé, il faut des moyens. Je peux vous dire que chez les familles en grande précarité qu'on connaît, il y a un fort désir de communiquer sur les réseaux sociaux, et même de plus en plus de communiquer aux journalistes aussi, sur de réagir aux discours négatifs qui circulent, etc. Donc il y a des gens qui viennent nous dire... j'utilise Facebook de façon assez limitée. Comment est-ce qu'on peut apprendre ensemble à utiliser Facebook ou créer un blog, etc., pour non seulement répondre à ces discours-là, mais aussi montrer la vraie vie dans notre quartier ou ce qu'on fait au quotidien pour résister, etc. Donc, on a animé il y a quelques années dans le Nord des ateliers. Et en fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça soit plaqué, il ne faut pas que ça soit en dehors de ce que vivent les personnes. Donc, on a équipé d'ordi chaque groupe d'université populaire, parce que c'était ça le projet des gens. Ils se mobilisaient autour de ces moments de rassemblement où on travaille ensemble des thèmes avec des gens très divers. Et en fait, on les invitait à filmer ou à écrire sur les thèmes qu'ils travaillaient. Mais il faut que ces stratégies d'accéder aux médias se raccrochent à des projets plus larges. Que vivent les gens, sinon ça fait plaquer puis ça marche pas. Mais je pense qu'on est loin d'avoir utilisé toute la puissance de feu en fait qu'on a, et c'est pas une question technique, hein. Avec un simple smartphone ou un micro, ben, en fait, on fait de la vidéo, on fait du podcast. Et à Télécaron, on est en train d'imaginer aussi des nouvelles formes d'action non violente dans la rue, parce qu'en fait il y en a marre que tout ça se passe à l'intérieur de nos locaux. Ce qui impressionne les pouvoirs publics locaux et nationaux, c'est quand on imagine des nouvelles formes de manifestations, d'être présent dans la rue de façon souvent décalée, et les jeunes, ils ont beaucoup d'imagination musicale pour ça, et je pense qu'il faut qu'on apprenne beaucoup des jeunes et des gens avec qui on est, comment on pourrait être présent davantage dans des lieux publics, ponctuellement, régulièrement, et dans la rue.
Vous êtes toujours connecté sur Radio Plus pour écouter La Ligue et vous, une émission animée par le pôle média de la Ligue de l'enseignement. Il est 9h35. L'heure d'écouter Xavier Harter, chargé de mission citoyenneté numérique. Nous le remercions chaleureusement pour ces quelques minutes d'interview durant lesquelles il est revenu sur les thèmes de la théorie du complot et la désinformation et les médias. Alors, est-ce que tu peux te présenter ainsi ce que tu fais dans la Ligue ?
Eh bien, je m'appelle Xavier Harter, je suis chargé de mission médias et numérique pour la Ligue de l'enseignement. Donc j'accompagne, je développe la thématique déjà qui est toute récente sur la Ligue, et j'accompagne des projets sur le Pas-de-Calais concernant principalement l'éducation aux médias et la citoyenneté numérique.
Plutôt, est-ce que tu peux nous définir la théorie du complot et comment les différencie des fake news ?
Les théories du complot, c'est quand on imagine faussement, hein, du coup, qu'un événement ou un phénomène ou un fait social particulier serait dû à un groupe d'individus qui agirait secrètement à l'encontre du bien commun, dans son propre intérêt, pour dominer le monde, pour leur propre intérêt personnel, quel qu'il soit, et il y en a tout un tas. Les fake news, elles peuvent être d'ordre individuel, c'est-à-dire qu'on peut créer une fake news tout seul sans pour autant que ce soit un complot, parce que pour comploter il faut être plusieurs, elles ont tendance à être beaucoup plus nombreuses finalement que les théories du complot, parce que tout le monde peut créer très facilement sa fake news.
La théorie du complot est facile à mettre en place selon vous ?
Et oui, on se rend compte en fait qu'il y a une enquête qui a été faite en 2018 avec Conspiracy Watch et la Fondation Jean Jaurès, qui explique qu'en fait il y a un Français sur cinq qui n'adhère à aucune théorie du complot ou théorie conspirationniste, ce qui fait que bah, il y a 4 Français sur 5 qui du coup ont tendance à attribuer abusivement certains phénomènes à une théorie du complot. Donc ouais, ça rentre bien effectivement dans la tête des gens par absence en fait de réponse à ces sujets-là. On a tendance à associer une théorie du complot en réalité à bah, une explication qu'on n'a pas. Et quand on n'a pas d'explication, c'est tout à fait facile d'imaginer des fausses réponses. Et il y en a tout un tas du coup qui rentrent très facilement dans la tête des gens, depuis l'assassinat de Kennedy jusqu'aux reptiliens, aux Illuminati. On a une porosité assez forte bah, des gens à ces théories.
À quelle référence pensez-vous quand on parle de théorie de complot ?
Eh ben, du coup, il y en a tout un tas. Celle auxquelles les gens ont tendance à croire très facilement, bah, c'est les plus récentes en réalité. On a eu un gros pic, par exemple, sur le 11 septembre. On imaginait que les Américains avaient eux-mêmes fomenté les attentats du World Trade Center pour justifier une guerre en Afghanistan, par exemple. Et puis aujourd'hui, finalement, on a tout un tas. Il y en a qui traînent depuis des années concernant par exemple le complot juif, qui est quelque chose qui date d'un document sur lequel les nazis sont même appuyés, d'un faux document sur lequel les nazis sont appuyés pour justifier la Shoah.
Du coup, est-ce que les médias sont-ils dangereux pour la société ?
Non, les médias sont pas dangereux pour la société. Un média, ça relaie une information. On est tous des médiateurs quelque part parce qu'on relaie tous des informations et pour autant, on n'est pas tous dangereux. Y a des médias qui sont dangereux parce qu'ils relaient des fake news, parce qu'ils soulèvent des questions qui amènent des zones d'ombre. On n'a pas une connaissance sur tout. Donc ces zones d'ombre, elles deviennent forcément à un moment donné une possibilité de faire rentrer des choses dans la tête des gens. Donc ouais, on a des médias qui peuvent être dangereux en soi, pas du tout, parce que la connaissance de l'actualité, l'accès à l'information, c'est ce qui permet aussi d'être un citoyen. Donc on a besoin de ces médias, clairement.
Alors du coup, comment lutter contre les préjugés et comment lutter contre la désinformation ?
Eh bien, en fait, les préjugés, ils proviennent généralement du fait qu'on a une simple source. À partir du moment où on arrive à avoir une information qui vient de plusieurs endroits différents, on arrive à avoir des traitements médiatiques différents, donc une visibilité sur un sujet X ou Y qui permet de changer. En réalité, à partir du moment où on se fixe sur un seul sujet, bah, on sait que sur une seule source d'information, on sait que du coup, on risque de limiter sa vision des choses. Donc du coup, la meilleure manière de traiter les préjugés, c'est d'avoir d'autres sources d'informations, de multiplier les sources d'informations, et puis de vérifier les sources aussi qui véhiculent les informations, parce qu'à partir du moment où la source est fausse, où la source cherche à nous induire en erreur, forcément on va avoir tendance à un moment donné à avoir des préjugés, à tomber dans des stéréotypes qui sont souvent faux.
On se retrouve tout de suite après Dream Theater avec le titre issu de leur 8e album I Walk Beside You.
Let me be the one to
Petit minute flash info, à venir, retrouvez la semaine de la fraternité du 7 au 21 mars. Tout comme la semaine de la laïcité, une multitude d'actions auront lieu à travers le département. Nous vous en ferons un petit état des lieux lors de notre prochaine émission, le 5 mars. Nous pouvons d'ailleurs vous annoncer le thème de cette dernière, puisqu'elle sera consacrée au 10e anniversaire du service civique. C'est ici que s'achève cette heure d'émission en votre compagnie. Désormais, vous êtes parés à faire la distinction entre théorie du complot, rumeurs et désinformation, et à distinguer les bonnes sources. Si vous souhaitez en savoir plus sur tout cela, et surtout sur les théories du complot, une adresse, conspiracywatch.info.
C'était La Ligue et vous, une émission animée par le pôle média de la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. Rendez-vous le 5 mars pour les 10 ans du service civique.
Radio Plus. La radio de toutes les générations. Radio Plus, Radio Plus, la radio pas comme les autres.